Avec grand plaisir, j'accueille au Lambert Café Marie-Ève Coton. Bonjour.
Bonjour.
Marie-Ève Coton, qui est médecin psychiatre. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, Marie-Ève?
j'ai développé mon goût pour la psychiatrie pendant mon cours de médecine et j'aimais tout en médecine. Il y a plein de spécialités que j'aurais aimé faire, donc ça a quand même été un défi pour moi d'en choisir une, mais j'ai choisi la psychiatrie parce que les patients me touchaient particulièrement parce que contrairement aux maladies physiques, ils ne suscitent pas la même compassion autour d'eux. Même ils ont tendance pour les personnes les plus malades, là, on parle de troubles psychotiques comme la schizophrénie par exemple, à susciter plus la crainte, la méfiance. Donc je trouvais ça terrible qu'ils vivent à la fois et la maladie et l'ostracisme social et la méfiance sociale autour. Donc c'est des gens qui m'ont particulièrement touchée et c'est comme ça que mon choix s'est arrêté sur la psychiatrie parmi toutes les disciplines médicales.
Oui, votre père était psychologue, votre mère infirmière aussi, et puis un voyage en Afrique qui vous a secoué un peu.
Oui, en effet, moi j'avais commencé, mais mes premières amours ou mes premières ambitions, c'était de faire de la coopération internationale pendant toute ma carrière, c'était de continuer à aller comme ça dans des pays en voie de développement parce que ça m'avait vraiment choquée de voir comment on était, on n'avait pas les mêmes opportunités en partant dans la vie, on n'avait pas les mêmes paramètres de santé, les gens de différents milieux sur la planète. Mais quand j'ai par la suite été dans les populations autochtones au nord du Québec, j'ai découvert à peu près la même détresse, les mêmes désavantages, le même décalage de conditions de vie et d'opportunités de vie par rapport à la population générale que je l'avais fait à l'étranger. Et c'est pas que je trouvais ça pire parce que bon, il n'y a pas de hiérarchie de détresse humaine. Mmh. La détresse humaine, c'est insoutenable qui l'apporte, qui que ce soit qui l'apporte, mais je trouvais que j'avais un sentiment de responsabilité plus important face aux Autochtones d'ici parce que c'est mon peuple, ça fait partie de notre population, ça fait partie de notre pays, notre province, et je trouvais ça choquant aussi qu'on tolère ce décalage-là à l'intérieur même de notre population. Donc, c'est à ce moment-là que mon choix de carrière s'est dirigé de la coopération internationale vers le fait de devenir une soignante régulière auprès des populations autochtones nordiques.
Et vous êtes tombée en amour avec le Grand Nord.
Absolument. Moi, je suis allée là sans attendre. Je suis allée là en me disant, bon, ben c'est là où la situation est la plus critique en santé mentale, donc je suis allée un petit peu par pragmatisme, mais je suis tombée en amour avec les lieux, avec la population, les gens qui sont tellement, je dirais, intéressants, différents, qui ont une lecture autre de la vie, de la mort, de la maladie également, qui ne conçoivent pas la maladie mentale de la même façon. Donc, je suis allée, je dirais, d'une certaine façon par devoir, mais je suis restée par affection, par attachement, par engagement et par plaisir également. Donc, c'est ma 18e année, si je compte les années où je suis allée comme étudiante. Donc, ça fait un bout de temps et je suis toujours aussi, je dirais, émerveillée et attachée aux gens que je rencontre là, qui sont très différents des stéréotypes que beaucoup de gens dépeignent, là, des stéréotypes de gens uniquement dans la souffrance ou dans la consommation, etc. C'est pas du tout ce que j'ai découvert et ça m'a permis de m'attacher à des gens intéressants, vivants et différents de ceux de ma culture.
Et vous travaillez également du côté de Montréal.
Oui, oui. Le reste de ma pratique se fait à Montréal avec ma pratique à Montréal est ciblée sur des gens qui ont des problèmes de schizophrénie sévère et réfractaire. Donc ça, c'est le travail que je fais là à tous les jours quand je suis à Montréal.
Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour écrire Pivot, qui est votre premier roman?
Ben, c'était un vieux rêve pour moi parce qu'à l'adolescence, j'ai découvert la littérature et je suis devenue une lectrice. Je suis toujours restée une lectrice depuis ce temps-là. Donc, je suis d'abord une amoureuse de la littérature comme lectrice. Et pour moi, la littérature est extrêmement importante dans l'exploration de la nature humaine, donc de la souffrance humaine. Donc, je trouve que ça a beaucoup nourri aussi mon développement comme être humain, mais comme psychiatre également. Et j'ai toujours rêvé de m'inscrire dans ce grand univers littéraire-là. Dès que j'ai commencé à lire, j'ai commencé à rêver d'être capable d'écrire moi aussi un jour. Mais ça m'a quand même pris plusieurs années pour le faire, parce que j'ai 43 ans aujourd'hui et c'est mon premier roman. Donc, ça m'a pris un bout de temps, pour développer la capacité de synthétiser une histoire dans ma tête, parce que c'est toute une aventure d'écrire un roman, mais d'avoir l'impression que j'ai suffisamment été peut-être témoin de la maladie mentale pour être capable de bien la raconter. Et je voulais pas la raconter comme une scientifique, là. C'est ailleurs. Je peux bien écrire des articles scientifiques, j'en ai fait, mais là, je voulais que ce soit vraiment un roman, une histoire qui soit accessible et qui rende la maladie mentale accessible à des gens qui ne connaissent pas ça du tout. Donc, c'est pas un roman ou un livre écrit pour d'autres professionnels de la santé. Au contraire, ça vise à utiliser les univers que je connais, donc l'univers psychiatrique, l'univers de la maladie mentale, pour raconter l'histoire de personnages qui seront touchants, qui seront attachants à leur façon. Donc, ça a été ça un petit peu mon défi pour Pivot.
Ben, vous réussissez fort bien. Sans nous dévoiler des secrets, racontez-nous un petit peu l'histoire.
L'histoire se passe à l'intérieur d'une unité psychiatrique intra-hospitalière. Donc, et les personnages principaux sont des gens qui sont hospitalisés, donc des gens qui ont tous des maladies mentales, du type que pour lesquels on hospitalise en 2017, donc presque uniquement des gens qui ont des maladies psychotiques, schizophrénie, troubles schizoaffectifs, etc. Et là, il va se développer autour de Pivot, qui est le personnage principal. Pivot, c'est son surnom parce que c'est un individu extrêmement instruit, lettré. Ce qui défait un peu les stéréotypes, parce que les gens s'imaginent pas toujours que la maladie mentale, ça peut s'abattre sur des gens de n'importe quel niveau d'éducation, d'intelligence, etc. Donc, mais des personnes comme ça, j'en ai rencontré beaucoup. Donc, quelqu'un qui est très, très instruit, qui est très lettré, mais qui développe une maladie mentale pour laquelle il est hospitalisé à répétition. Et là, durant son hospitalisation, il va rencontrer deux personnes assez importantes pour lui. Donc, un jeune homme qui lui rappelle beaucoup ses propres débuts dans la psychiatrie. Donc, un jeune homme haïtien qui croit être Jésus, qui est un délire qu'on rencontre quand même assez fréquemment en psychiatrie. Et il va tomber également amoureux d'une autre jeune femme qui est hospitalisée, qui est une Inuite, qui, elle, a des hallucinations auditives. Donc, elle entend des voix de gens qui souffrent, qui crient, qu'elle croit être en train de mourir et qu'elle croit aussi être coincée dans les murs. Donc, autour de ces deux personnages-là, il va développer des liens. Il va beaucoup tenter d'aider ce personnage de Mary, l'Inuit, pour qui il est très sensible à sa détresse, mais on va découvrir à travers ça que la maladie mentale, ben, c'est aussi très, très fort, très violent sur la personne qui en souffre. Donc, la complexité, je dirais, va se déployer par la suite autour de ces personnages-là.
C'est vraiment passionnant. Je suis rendue au milieu et c'est vraiment passionnant. Alors, Pivot, c'est écrit par Marie-Ève Coton chez VLB Éditant. Un gros merci, Marie-Ève. Ça a été vraiment fort intéressant. Et puis, on se donne rendez-vous un autre tantôt pour le deuxième livre. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Bye-bye.
Merci. Au revoir.